des livres RMC, Fred Hermel.
Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans le 42e épisode du podcast littéraire de RMC, auquel je vous invite respectueusement à vous abonner. Il est ce qu'on appelle un grand flic. Connu internationalement, commissaire divisionnaire au sein de la PJ pendant plus de 30 ans, il a notamment dirigé l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, puis l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Il est aussi un célèbre auteur de polar. Jean-Marc Souvira et son nouveau roman Meurty, qui vient de paraître aux éditions Fleuve Noir, sont aujourd'hui mes invités. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Fred.
Avec Meurty, vous n'avez pas seulement écrit un polar, j'ai l'impression. C'est aussi une enquête, un documentaire, un scénario de film, un guide pour comprendre l'industrie du trafic de drogue. Est-ce que je me trompe ?
Pas du tout. C'est aussi une plongée dans divers univers, notamment celui de la communauté indienne, celui du monde des avocats véreux, du système carcéral français. Et surtout, le roman policier, d'une manière générale, peut aborder des faits de société. Et c'est ce qui me passionne dans l'écriture d'une manière générale, c'est-à-dire mettre un projecteur sur des faits qui ne sont pas forcément connus du public. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du trafic de stupéfiants, tout le monde a en tête des mots, des aides-mafia, Kalachnikov, etc. Mais je dirais que ça, c'est l'aboutissement, la conséquence. Tout ce qu'il y a avant, le public ne le connaît pas. Et c'est ce que j'ai souhaité raconter au lecteur, ce qu'il y a en amont et qui est absolument terrible.
Est-ce que justement le roman, donc la fiction, ou la supposée fiction, permet justement de raconter des choses qu'on ne pourrait pas raconter dans un reportage journalistique, par exemple ?
Alors, oui, je suis d'accord avec vous. En fait, la fiction permet de mettre sur des faits réels, de la faire vivre avec des personnages auquel on va s'attacher, plus ou moins, en fonction de qui ils sont. Là, en l'occurrence, dans Meurty, qui est un jeune indien, c'est le prénom, hein, c'est un prénom indien. En fait, c'est un Français d'origine indienne qui a 22 ans, qui est étudiant en histoire, qui travaille dans un restaurant pour payer ses études. C'est vraiment le gars dont on voudrait tous être copains, Meurty. Et ça va basculer, mais ça va basculer à son corps défendant. C'est-à-dire qu'il y a un de ses amis qui a un accident de scooter, qui va lui dire « Est-ce que tu peux me remplacer ? Tu vas, on te donne une information sur WhatsApp, tu vas récupérer une enveloppe, tu la ramènes à notre point A, point B, et on te donne 500 euros. » Et là, il ne réfléchit pas, il ne dit pas « C'est quoi cet argent ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que je transporte ?» etc. Il dit « D'accord. » Et c'est là que l'engrenage se met en route.
Et c'est là que commence votre roman, en fait.
Absolument, c'est là que commence le roman.
Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Meurty, Jean-Marc Souvira, c'est qu'on parle du petit et du local, et du grand et de l'international. C'est-à-dire que vous touchez à tout l'engrenage, en fait.
En fait,
tout le spectre.
C'est exactement ça, c'est le spectre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des Meurty, c'est-à-dire des petits collecteurs de l'argent des stupes.
Il n'y a pas les Mansouris qui sont, votre roman, voilà. Les patrons, les boss.
Absolument. Tout simplement, c'est que l'argent des stupes en France est à peu près 7 milliards d'euros.
Par an.
Donc, ce n'est pas 7 milliards d'un seul bloc. C'est-à-dire ce sont des petites sommes, petits ruisseaux, grandes rivières, etc. Donc, il faut des gens en scooter qui aillent récupérer l'argent, les petits collecteurs, qui les amènent à un moyen collecteur, un grand collecteur, etc. En fait, on a une structure pyramidale extrêmement bien faite, très, très pointu, où les chefs de réseau restent, en l'occurrence pour la résine de cannabis, restent au Maroc. Et bien sûr, ils ont des points d'attache, des correspondants en France, en l'occurrence parce que c'est la France. Je fais une petite parenthèse, j'ai écrit ce roman parce que j'ai piloté le service anti-blanchiment en France, donc blanchiment du trafic de stupéfiants. Et aussi, accessoirement, si je puis dire, c'est le financement du terrorisme. Donc, les mécanismes...
C'est lié ?
Non, c'est pas lié. Alors, on peut en parler dans le système de la prison. On en reparlera. Dès l'instant où vous avez des grands mouvements financiers, il faut des gens qui ont l'intelligence de la circulation de l'argent. Et en France, il y a, je dis la France parce que c'est le sujet, il y a ce qu'on appelle le SARAF. Le SARAF...
C'est le banquier, en gros.
C'est le banquier, c'est le changeur, c'est celui, l'homme de confiance, qui est responsable sur ses deniers propres de l'argent qu'il va récupérer pour réinjecter après dans le circuit économique. Le blanchiment, il faut avoir en tête une notion très précise, c'est de l'argent illégal qui va passer par différents filtres pour ressortir avec l'aspect de la légalité. L'aspect de la légalité, ce sera toujours un argent, de l'argent qui provient d'infractions multiples. Donc, quand j'écris ce roman, je pars de mon expérience de chef de l'OCRGDF, donc la répression de la grande délinquance financière. Ensuite, je pars comme attaché de sécurité intérieure au Maroc et ensuite en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre le service de police judiciaire en France et la coopération franco-marocaine et la coopération franco-espagnole. Et la coopération franco-espagnole est vraiment exceptionnelle.
Parce que c'est le chemin, en fait. Parce que pour arriver en France, il faut passer par l'Espagne.
Et c'est exactement ça, c'est le chemin. Donc, c'est l'Espagne est à 14 km du Maroc. On voit depuis le Cap Spartel au Maroc, on voit les côtes espagnoles. Donc, les Espagnols, on les voit pour certains, je veux dire, des gens tout à fait normaux, ils sont assis sur des sièges en plastique en train de boire leur thé et de regarder les côtes européennes avec beaucoup d'espoir pour certains. Et pour les trafiquants, ça se fait très rapidement avec des bateaux, ce qu'on appelle nous les narcolanchas.
Lanchas en espagnol, oui.
Absolument.
Des bateaux. Des zodiacs, en fait.
Ce sont des zodiacs avec, en gros, il y a certains ont 1000 chevaux, donc c'est une tonne, c'est 250 chevaux. Donc voilà, ça se fait très vite. Alors nous, on était très attentifs à cela parce qu'on peut mettre une tonne de résine de cannabis, mais on peut faire passer aussi des gens avec des profils plus inquiétants.
Des terroristes.
Par exemple, il faut avoir présent à l'esprit, je dis ça aux spectateurs, aux lecteurs.
Et aux auditeurs
qui nous écoutent avec attention, j'espère. Nous avons deux villes en Espagne, pardon, au Maroc, Ceuta et Melilla.
Qui sont des enclaves espagnoles.
Des enclaves.
Donc c'est l'Europe.
Donc ce sont deux enclaves Schengen sur le continent africain. Et on a eu énormément d'hispano-marocains qui sont partis au pays de Cham, donc pendant la guerre avec Daesh. Hein,
en Syrie. Daesh,
ouais. Comment ?
En Syrie.
En Syrie, oui, Irak-Syrie, oui. Et notamment Mossoul, etc. Et qui reviennent. Et quand ils arrivent ensuite sur Ceuta et Melilla, s'ils prennent le bateau, c'est Schengen, c'est l'Espagne, mais c'est peut-être la France, etc. Donc le but, c'était de travailler avec les Espagnols, parce que nous, France, on a une législation qui permet d'arrêter ces personnes et de les mettre, de les incarcérer, alors que les Espagnols n'ont pas cette législation. Ce qui fait que quand on travaille en coopération, on travaille en bonne intelligence. C'est quelle est la meilleure façon de neutraliser
et surtout quelle est la meilleure, on va utiliser la meilleure législation pour mettre ces gens-là derrière les barreaux. Mais pour revenir aux différents personnages du roman, parce que outre le fait que c'est très bien écrit, vous savez, moi j'ai parfois certaines réserves sur certains thrillers ou certains polars, parce que l'histoire est tellement importante, il y a le côté haletant de l'histoire, les rebondissements, qu'on en oublie parfois un tout petit peu l'écriture. Ce n'est pas du tout le cas pour vous. Jean-Marc Souvillard, vous aimez écrire.
Ah, j'aime beaucoup écrire.
Vous aimez mettre en scène les personnages. Les personnages sont extrêmement bien sculptés. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais qu'on parle des différents personnages.
Bien sûr.
Parce qu'ils sont un univers en soi. Donc, on a évoqué Murty.
Jeune étudiant
en histoire. Ses parents ont immigré.
Ses parents ont immigré. Le père venait d'un endroit qui est épouvantable, qui est en Inde, qui s'appelle Alang, A-L-A-N-G, où les bateaux sont désamiantés, sont des gamins qui sont en haillons avec des chalumeaux qui coupent les bateaux. Donc, ils ont tous des maladies. C'est un endroit des plus pollués de la Terre. Et donc, le père de Murty vient en France.
Alors qu'il a fait ça quand il avait 14-15 ans.
Il s'est marié, etc. Et il est très fier de son fils qui veut être professeur d'histoire.
Et professeur, c'est la réussite absolue.
Mais complètement, parce qu'il dit à sa femme, le père de Murty, Et donc sa femme, qui est totalement analphabète, illettrée, etc., il lui dit, tu te rends compte, notre fils va être professeur d'histoire en France. Et c'est un aboutissement pour cette famille de manière exceptionnelle. D'autant qu'il va se marier avec une jeune fille d'origine indienne également, Malini, qui est une
qui jeune étudie fille. Aussi.
Comment ?
Qui est une étudiante, elle
qui
aussi.
Qui est une étudiante en histoire. Donc, tous les deux ont un vrai projet, un vrai projet de vie.
Et pourtant, il tombe, et on va suivre tout, parce qu'il va se faire arrêter, on va le dire, Murthy, bien entendu, mais il tombe par hasard sans s'en rendre compte, en fait, dans ce trafic.
Ben, en fait, c'est un ingénu, c'est un innocent, mais qui va capter la confiance des narcos, enfin des représentants narcos en France.
Oui, parce que lors d'une des premières interventions, les flics étaient là,
ouais.
Et il a réussi à s'échapper.
Il arrive à s'échapper, il prévient.
Et à remettre l'argent.
Il remet l'argent, même s'il croit mourir, hein, parce qu'il a le cœur à 2000 à l'heure, etc. Mais comme disent les narcos, ils disent les collecteurs sont des Kleenex un peu. Ils viennent, après ils repartent, etc. Tandis que lui, alors pourquoi il fait ça ? Quelle est sa motivation ? En fait, il a deux motivations. La première, c'est d'aider de manière discrète sa famille dans le mariage qu'il projette avec Malini, tout simplement parce que le mariage indien coûte cher. Et aussi, il veut conserver un peu d'argent, parce qu'il ne veut rien pour lui, hein, pour aider son père à aller en cure, etc., parce que son père a une tuberculose féroce. Voilà. Donc, en fait, c'est un gamin que... Alors, Murthy, je l'ai connu, Murthy. Malini, je l'ai connu. Ce sont des gens qui existent vraiment.
Vous avez simplement changé le nom, quoi.
Bah, complètement. Complètement.
Mais en tant que flic, vous avez arrêté un Murthy.
Ouais. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Plusieurs, même. Mais là, le Murthy en question, c'est vraiment... On n'a pas envie d'envoyer en prison, quoi. Tellement, c'est... on dit, mais qu'est-ce que tu as... Mais pourquoi, tu te rends compte, ce que tu as entre les mains, tu n'as pas réfléchi ? Oui, mais etc. Voilà.
Et alors, donc, vous dites que c'est un collecteur, ce sont des Kleenex, mais qu'est-ce qu'est le rôle de collecteur ? Parce qu'on se rend compte qu'ils sont payés 500 balles, mais ils sont essentiels dans le rouage.
Ah, mais c'est fondamental, pas de collecteur, pas de
pratiquant. Ils font quoi exactement ?
Eh bien, c'est simple. Au Maroc, en l'occurrence, c'est dans cette affaire-là, on a assisté à une bourse au blanchiment. C'est-à-dire que le narco, il a 4 ou 5 personnes autour de lui. Il dit, voilà, j'ai 500 000 euros à récupérer à Évreux. Combien tu me les fais ? Combien tu me les fais ? Combien tu me les fais ? Et celui qui a le taux le plus bas emporte le marché. Donc, une fois que ces 500 000 euros sont à Évreux, il faut des gens pour les récupérer. Mais ils ne vont pas récupérer 500 000 euros comme ça, quoi. Donc, il faut qu'ils récupèrent leur petite somme, qu'ils les envoient à d'autres, etc. En fait, c'est des fourmis, des myriades de fourmis qui récupèrent l'argent, qui le font remonter à des collecteurs, etc.
L'argent de la drogue, hein.
L'argent
de la vente de petits points de deal.
Complètement. C'est-à-dire que si on prend à l'heure actuelle la masse monétaire en France de billets qui sont en circulation, je crois qu'il y a un pourcentage, mais très très élevé, peut-être de 80% au moins, qui ont été dans des transactions de stup. C'est-à-dire que si on s'amuse à faire des dépistages sur chaque billet, sur ce qu'on a sur nous, sur vous, etc., ou ici, il y a de l'argent qui a servi à de l'échange de stup.
Oui, parce que ça ne se fait pas avec des cartes de crédit et des chèques.
Non, ça se fait avec des petites coupures, 10, 20, 50. Les narcos, enfin, la circulation des billets de 100, 200 et 500, c'est totalement interdit, prohibé. Bon, 500, il n'y en a plus. Mais 100 et 200, non, ce n'est pas possible. Donc, c'est 10, 20, 50, essentiellement. Donc, les transactions stup, c'est ça. Donc, c'est pour ça que tous les billets en France de 10, 20, 50 euros, pour la plupart, ont un marqueur stup parce que c'est de main en main. Ça s'achète, j'achète ma dose, ou la cocaïne, ou l'héroïne, ou des produits chimiques. C'est comme ça que ça se passe.
Et donc, les collecteurs, ce sont des petites mains qui vont apporter des petites sommes, enfin des petites sommes. Parfois, il y a des centaines de milliers d'euros dans les.
Ah oui, ouais, parfois, Murthy va se faire. Nous, le Murthy qu'on avait interpellé, il avait 400 000 euros sur lui.
Alors, lui, il va chercher à quelqu'un qui va lui transmettre, qui va le donner à quelqu'un d'autre, qui va le donner à quelqu'un d'autre, qui va le donner à quelqu'un d'autre, qui va le faire venir au Maroc.
Absolument. Alors, non, ça ne va pas au Maroc. Ça va aller surtout à Dubaï.
Dubaï, d'accord. Et la banque.
Et la banque.
Mais donc, il faut que ce soit des petites sommes. Enfin, tout ça est divisé. Ouais. Ça passe par plusieurs mains pour noyer le poisson.
Oui, parce que comme ça, si on arrête Murthy, on arrête l'échelon au-dessus, mais derrière, ou même pas, on arrive peut-être même pas à arrêter l'échelon au-dessus. Ça veut dire qu'en fait, ils fonctionnent presque comme des services de renseignement.
Oui, on ne connaît pas celui d'avant, et on ne connaît pas celui d'après dans la chaîne.
Absolument. C'est pour ça que quand on a fait une affaire qui était dont le nom de code était virus, on a toujours des noms de code assez marrants, on a dû laisser passer 13 millions d'euros quasiment pour pouvoir monter une arborescence de tous les collecteurs, les moyens collecteurs, le gros collecteur, le SARAF et la finalité de l'argent. C'est-à-dire, quand on a fait les arrestations, on avait laissé passer 13 millions d'euros, à peu près hein, à la louche.
Pour arrêter tout le monde d'un coup, en fait.
Pour arrêter tout le monde d'un coup, pour arrêter tout le réseau. Et l'aboutissement, ça a été le bureau d'agents de change qui était à Dubaï, qui avait été monté par les narcos. C'est-à-dire que tout l'argent du narco-banditisme en France part à peu près dans les Émirats, à Dubaï. Mais pas que la France. Hein. Vous avez tous les pays européens, etc.
Mais pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises financières, des banques, des fonds d'investissement. Oui. Et puis, ils ne sont pas très regardants.
Pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'instant, comme je le dis dans le roman, où à Dubaï, vous ne faites pas du terrorisme, vous ne faites pas du trafic de stupes, les machines à calculer, elles tournent à plein. Ce sont des investissements massifs. Un jour, ils n'auront plus de pétrole, plus de gaz, plus machin, etc. Donc, il faut investir. Donc, il y a de l'investissement immobilier, il y a des marinas, des locations de bateaux, de voitures, etc. Donc, dans le Golfe, alors maintenant, ça, c'est un peu compliqué pour eux avec la guerre avec l'Iran, mais les Émirats regardaient tous les influenceurs qui ne voulaient pas payer d'impôts, qui partaient à Dubaï, etc. Et puis après, qui ont pleuré pour revenir en France parce qu'ils avaient peur. Vous voyez un peu. Donc, en fait, à Dubaï, il n'y a pas que les Français. Sur une affaire célèbre qui touchait le monde du football, des agents de joueurs très proches du grand banditisme avaient leur argent à Dubaï. Donc, vous voyez, on a une place financière qui est en dehors des radars, GAFI, etc., donc les groupes d'action financière, qui permet d'accueillir de l'argent pas clair. Et comme ils prospèrent dans le pays... Ben, ça tourne.
Et ça se lave. Et ça se lave. Ben oui. Si vous investissez illégalement dans un immeuble qui se construit, puis vous louez les bureaux, ben finalement, c'est l'argent ça. Que vous touchez de la location, ben c'est ça.
Donc c'est de l'argent.
C'est propre.
Absolument. Donc c'est de l'argent, c'est du blanchiment. Donc l'argent devient. Il est illicite, mais il ressemble à de l'argent légal.
C'est du Canada Dry. Ça ressemble à l'alcool, c'est le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool.
Si on veut, ouais. Mais c'est intéressant.
Mais moi, ce que j'adore dans votre roman, c'est que vous décortiquez tout ça.
Oui.
Et c'est ça qui est intéressant. C'est quasiment un documentaire tout en ayant le côté passionnant du roman, des personnages. Alors, les personnages, tous ces gens-là travaillent pour le parrain, qui sont deux frères. Enfin, c'est un frère plus un grand frère, un petit frère. Les frères Mansouri, Rachid, le chef, le parrain, et Sofiane, son petit frère.
Alors, Rachid Mansouri, c'était bien sûr, et Sofiane, ce sont des narcos que j'ai connus, avec un autre nom, bien évidemment. Le principal Rachid, on était surnommé Eldorado. Eldorado, parce qu'il était chargé de bijoux, de montres, de colliers en or, etc. Immense villa à Tanger, avec tous ses affidés, etc., tout son réseau. Très protégé. Par les services marocains hein, qui...
Puis on le voit, il y a une scène où il y a un des chefs de la police qui est là, qui lui rend hommage et qui repart avec une grosse enveloppe.
Bien sûr.
Mais c'est son employé. C'est-à-dire que le chef de la police que vous décrivez dans le livre est au service et il est même obséquieux avec le parrain.
Ben oui,
mais... Et ça marche comme ça, vous l'avez vu.
C'est complètement.
Quand vous y étiez,
c'est le patron, c'est celui qui paye. Le patron, c'est celui qui paye. Voilà. Ce que tout va toucher le policier, en l'occurrence dans le roman, c'est 50 fois son salaire mensuel. Donc il n'y a pas de. La morale, elle vole en éclat, là. Et ce qu'on a assisté aussi, un truc, ce qu'on appelle le Irak de la soif. Le Irak de la soif, c'est les narcos qui assèchent les nappes phréatiques pour la culture du cannabis et qui vont déclencher des émeutes. chez les agriculteurs qui font les agrumes, etc., etc. Donc, Irak de la soif, manifestation dans une ville, une petite ville dans le nord du Maroc, dans le Rif, où il y a toute la plantation de cannabis. Hein. Et donc, répression, et les narcos vont régler ça à coup de grosses sommes d'argent vers le Wali, donc vers le préfet, pour calmer le jeu. Et voilà, c'est rude pour les vrais cultivateurs.
Et ça, ça se passe encore aujourd'hui ? L'eau qui est détournée pour cultiver le cannabis ?
Ah ben ça arrive, oui, bien sûr. Alors, en plus, dans les années à venir, les géologues ont déterminé que le Maroc allait connaître une grande détresse hydrique. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des golfs dans le sud du pays, du côté de Marrakech, etc., qu'il faut beaucoup arroser, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y aura plus d'eau. Donc, il faut creuser de plus en plus profondément dans les nappes phréatiques pour pouvoir arroser les golfs, etc. Et pareil pour les champs de cannabis.
Les deux frères ont deux caractères très différents, Rachid et Sofiane.
Alors, Rachid, c'est, je dirais, c'est le gros violent. C'est celui qui est arrivé
en tuant,
à coups de torgnole, etc. Quoi, voilà. C'est le narco qui s'est fait. Voilà. Et puis, ce qu'on voit aussi maintenant, de plus en plus de jeunes narcos qui vont faire des études aux États-Unis. Qui vont faire des grandes écoles et qui reviennent, qui sont multilingues, c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc., qui connaissent les mécanismes à fond de l'économie. Ce que les auditeurs doivent avoir vraiment en tête, c'est qu'un réseau de trafic de stupéfiants, c'est une multinationale du crime organisé, avec un département recherche et développement. C'est-à-dire qu'on va parler avec les Néerlandais pour savoir quels sont les meilleurs plans qu'on peut faire. C'est pour ça qu'entre le cannabis des années 70 et celui qui est maintenant, il est 70 fois plus enfin il est, pardon, il est 18 fois plus fort, alors que la réduction des terres cultivables a considérablement diminué. C'est-à-dire qu'avec je crois qu'il y a une quarantaine entre 35 et 40 000 hectares. Sur avant, il y en avait peut-être 3-4 fois plus, on a une production qui est identique et plus forte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme les plantes transgéniques.
Toutes des recherches agronomiques ?
Oui.
C'est-à-dire dans le cannabis ?
Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on a des plants extrêmement puissants. Le taux de THC qui mesure la puissance du cannabis a complètement explosé.
Parce qu'ils ont fait de la recherche comme un big pharma.
Mais complètement. Depuis quand n'a-t-on pas entendu parler de drogue dure, drogue douce ? C'est fini, ça. Dans les médias, on n'entend plus ce jargon drogue dure, drogue douce. Toutes les drogues sont dures, même le cannabis. Moi, je me souviens avoir vu des mélanges du côté de Ketama ou dans de la résine de cannabis. En fonction de la couleur, ils rajoutaient soit du henné, soit du cirage, soit du gasoil. Alors, on est loin des produits bio. Il faut vraiment que les auditeurs pensent à ça, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de pur, etc. Bon, peut-être, je sais pas moi, la plantation, mais pas la résine. La résine, c'est juste épouvantable. D'ailleurs, quand on parle avec les médecins, le cannabis ne rend pas schizophrène, mais révèle la schizophrénie de certains qui l'ont en eux. Donc, c'est un produit extrêmement dangereux. Donc, c'est pour ça qu'on ne parle plus de drogue dure et de drogue douce.
Toutes les drogues aujourd'hui sont dures. Mais pour revenir à cet aspect multinational du crime, dans votre roman, vous parlez de deux femmes, Noémie et Leïla, qui sont avec le parrain, avec Rachid Mansouri. Ouais. Elles ont fait des grandes écoles.
Alors, on a vu... Dans les réseaux narco, deux professions très très importantes. Un, les logisticiens, et deux, les financiers. Alors pourquoi les logisticiens ? Quand vous avez au Maroc à peu près 2200 tonnes de résine à évacuer sur l'Europe, ces 2200 tonnes, il faut qu'elles puissent arriver en France, en Espagne, en France, en Italie, etc., un peu partout en Europe, mais avec moins de saisies possibles. Dès l'instant où il y a des saisies, le réseau, il faut qu'il réfléchisse, etc. Donc le logisticien, c'est celui qui va amener le produit sans risque. Alors quand on nous pose la question de savoir si on fait beaucoup de saisies et combien on laisse passer, en fait, on ne peut pas le dire ça. On peut dire oui, combien on a fait de saisies, mais combien on laisse passer. La référence, c'est le prix. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la résine de cannabis et la cocaïne sont toujours au même prix. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de saisies, mais le prix est toujours pareil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ça arrive toujours. C'est ça l'indicateur. Ce n'est pas combien supposé, non, c'est combien ça coûte. Ça, le prix n'a pas bougé. Si le prix avait considérablement augmenté, ça veut dire qu'on aurait beaucoup affaibli les réseaux.
Donc il faut quelqu'un dans ces narco-industries, un logisticien qui permette le transport de la marchandise et des financiers.
Et des financiers qui vont gérer au Maroc, en l'occurrence, en gros avec des tableaux Excel. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que on a envoyé tant, on a payé. Alors, il y a eu des arrestations, combien coûte l'avocat, etc. etc. Et donc, ces personnes, souvent, sont recrutées auprès d'écoles de commerce, etc. Bon, je ne dis pas que c'est une généralité, mais c'est un peu ce qu'on a vu. Dès l'instant où vous payez 10 à 15 fois par mois le salaire initial, ceux qui ont une moralité fragile ou des engagements cèdent à la tentation des sirènes.
C'est-à-dire que vous avez des gens, de bons étudiants, en logistique ou en finance, qui, attirés par l'argent, peuvent travailler pour ces multinationales.
Oui, alors à la base, on ne leur dit pas que c'est pour les stupes. Hein. On leur dit que c'est pour faire circuler du produit, etc. Bon, et puis, en plus, ils ne se posent pas trop de questions. Quoi. Et au bout d'un mois ou deux, ils ont vite compris de quoi il s'agissait. Enfin, même pas, au bout de trois semaines, ils ont vu de quoi il s'agissait.
Revenons au quotidien de cette entreprise du crime. Il y a une violence extrême. Moi, j'ai même été un peu choqué. Parce que vous êtes un grand écrivain, donc vous savez décrire cette scène dans une cave où ils tabassent deux types qui sont innocents. Parce que, alors, il faut expliquer aussi que dans le roman, à un moment, des collecteurs se font braquer.
Ouais.
Il y a des collecteurs qui se font braquer. On ne sait pas par qui, non. Au début.
Et on ne va pas le dire.
On ne va pas le dire. Et donc, Mansouri, le parrain, veut savoir qui lui braque son argent.
Absolument.
Et donc, ils vont tabasser deux mecs en étant persuadés. Ils se rencontrent très rapidement, les tabassants, que ce ne sont pas eux, mais pourtant, ils vont les laisser pour morts, quand même.
Alors,
parce qu'ils veulent envoyer un message.
Absolument. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une concurrence féroce entre narcos, où ils vont se voler les cargaisons, etc. La plupart des narcos planquent des balises GPS dans les paquets pour pouvoir les suivre à distance. Quand ils sont jetés à la mer, donc ils peuvent après les récupérer, etc. Mais oui, c'est ça une multinationale du crime. C'est-à-dire, on pense à tout. Et donc, quand Rachid Mansouri se fait dérober l'argent des collecteurs, il pense quelle est la structure, l'organisation concurrente qui peut... Et il demande à son frère, qui est un peu ce que les Anglais appellent un tenderfoot, quoi, un pied tendre, qui est plus... lui, il vient des grandes écoles, donc il n'a pas les mains pleines de sang. De régler la chose. Et c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il y a cette fameuse descente dans la cave où ils ont interpellé, ça c'est la police qui interpelle, où ils ont séquestré deux gars. Et en fait, ils disent, bon, même si c'est pas eux, eh bien, ça servira de leçon pour les autres.
Je vous propose, cher Jean-Marc Souvira, auteur de ce magnifique polar Meurti, de nous lire un petit extrait de votre roman.
19h04. Murti baissa la visière de son casque, démarra et se rendit au rendez-vous. Il ressentait chaque fois les mêmes sensations de peur, la gorge sèche et le cœur battant. Il s'arrêta au feu rouge de la rue du Château d'Eau. Bien que sur le qui-vive, il ne détecta aucune des voitures banalisées garées le long de la voie. Aucune chance, elles étaient inoccupées. Son regard se focalisa sur la sortie du métro et se planta sur un jeune type à proximité. Son attitude correspondait à celle de ses contacts habituels. Il devina que le gars, nerveux, s'apprêtait à partir. Feu vert, circulation chaotique, dense. Murti traversa le boulevard et monta sur le large trottoir. Là, il zigzaga au pas entre les piétons, devant les femmes qui vendaient des sandwichs et des boissons. Surtout, il veilla à ne pas déranger les sempiternels groupes de mecs qui discutaient fort, tapaient dans leurs mains et rigolaient. Murti s'approcha au ralenti de sa cible. Il releva la visière sombre de son casque et lui glissa quelques mots. L'homme parut enfin soulagé. Aussitôt, la sacoche changea de main. Murty la cala contre sa poitrine en même temps qu'il se penchait pour entendre le lieu de la remise. Surprise. Il se figea plusieurs secondes. Ce n'est pas possible. J'ai du mal à comprendre. Il y a trop de bruit. Trop tard, le type avait déjà filé. Il rabaissa d'un coup sec la visière. Il avait la trouille. Le bruit de sa respiration était amplifié dans le casque. Un soufflet de forge. Murty repéra à 10 mètres de lui une ouverture pour descendre du trottoir et se tirer. Son regard se verrouilla sur cette issue. Comme toujours, dans ces moments de stress intense, son cœur cavalait et son sang pulsait dans ses tempes. Légère accélération, éviter les piétons. Murty, hypnotisé par le replat du trottoir, avait les yeux rivés droit devant lui. Dans 2 secondes, il foncerait sur le boulevard. Soudain, un bras puissant, recouvert d'un tatouage de serpent, l'enserra brutalement sous le cou, l'étrangla. La tête de Murty partit en arrière. Éjecté de la selle, il chuta lourdement sur l'asphalte. Le scooter continua sur sa lancée et percuta un arbre.
Vos souvenirs de flic, là.
À fond.
À fond.
À fond.
Parce que ce que vous décrivez, là, vous l'avez vécu de l'autre côté.
Je l'ai vécu plusieurs fois, oui. Bien sûr.
Ces émotions, là. Parce que la tempe, là, boum, boum, dans le casque, oui. Vous l'avez ressenti, vous aussi,
Oui, complètement.
En tant que policier.
Nous, quand on est policier en phase d'interpellation, on est à un taux d'adrénaline exceptionnel. Donc, on a l'impression d'être ultra vivant, d'avoir les yeux sur les côtés, derrière, etc. Le cœur, il est comme une voiture de course devant un drapeau à damier. La gorge sèche. On voit, alors quand on est le chef du dispositif, on voit où tous ces gars sont placés, etc. On se dit, ah, là, ça peut foirer, là, ceci, etc. Donc, on est aux aguets surtout, quoi, surtout. Et le top interpellation, c'est libérateur. Quoi.
Ouais. C'est-à-dire ?
Eh bien, en fait, ça y est, on passe à l'action. Il n'y a pas de plan B. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, oui, mais si là, ça ne marche pas, derrière, après, il y a ça, puis il y a ça, et puis il y a ça. Oui, on anticipe, hein, bien sûr. Il y a toujours, un dispositif un peu plus large pour toper les mecs s'ils se sont sauvés. Mais le serrage est quelque chose d'exceptionnel en matière de police judiciaire. Moi, je sais que ça a été mon moteur, enfin, l'interpellation, même quand on est commissaire de police. Hein. Alors maintenant, les jeunes commissaires, enfin, ceux qui sont plus des gestionnaires que des hommes d'action, même si certains dans des services le sont de manière exceptionnelle. Moi, j'ai eu la chance d'être toujours dans des services où je pouvais à la fois faire du tableau Excel, des notes de service, mais aussi de la gestion, du saut dessus, l'interpellation. Ça me manquait. J'ai commencé ma carrière comme inspecteur. Donc, le saut dessus, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré.
Ça vous manque, vous êtes à la retraite aujourd'hui ? Ça vous manque de alors, plus serrer les méchants ?
Alors, le mot retraite ne me plaît absolument pas, parce que je ne me suis jamais retiré. Donc, moi, j'aime bien le mot espagnol, c'est jubilación.
Oui.
Donc, la jubilation, en fait, oui.
Oui.
Une amie m'a dit, ça y est, tu as arrêté la police. Donc, ça m'a fait beaucoup rire d'arrêter la police, oui. Alors, la retraite, est, enfin, donc, mon non-activité.
Voilà, vous n'êtes plus en activité ?
Non.
Je répète ma question.
Oui.
Ça vous manque de ne plus serrer les mecs, cette adrénaline-là ?
Mais bien sûr, c'est évident. C'est évident. Moi, pendant des années, mon téléphone ne s'est jamais éteint. Donc, le jour où vous vous couchez, vous éteignez votre téléphone, etc., ça fait drôle, quoi, en fait, c'est ça. Quand j'ai quitté l'Espagne, je ne pouvais pas prendre l'avion. Parce qu'en 1h25, arrivé donc, de Barajas à Paris, ça faisait trop court. Et j'avais ma moto. À Madrid, avec laquelle je me baladais, j'allais dans la Sierra, j'allais un peu partout, dans les Bardenas Reales, etc. Bon, que vous connaissez.
Eh oui, je connais tout ça. Oui.
Que vous connaissez. Et donc, je rentre en moto je suis allé de Madrid au Touquet, en passant par Saragosse, Andorre, l'Occitanie, l'Aubrac, etc., pour aller au Touquet, 2000 km par le chemin des Écoliers. En fait, je voulais un sas. En fait, il m'aurait fallu un sas de beaucoup plus longtemps. Oui.
Ben, en parlant de sas, je vous propose, cher Jean-Marc Souvira, auteur de Murty aux éditions Fleuve Noir, petite respiration musicale, oui ?
On n'a pas parlé de la prison.
Mais ça vient.
Ah, cool.
Soyez pas pressé, on a le temps. Je vais pas vous laisser partir comme ça, je viens de vous serrer là.
D'accord.
Une respiration musicale.
D'accord.
Alors, je vous ai proposé, comme à tous les invités de ce podcast Deliver RMC, de nous faire partager une chanson. Qu'avez-vous choisi ?
Alors, j'ai choisi une chanson de Willie Nelson, On the Road Again. Qui est Willie Nelson ? Il fait partie de ces chanteurs qui ont donné un concert absolument mythique dans les années 90. C'était The Highwaymen. The Highwaymen, ça ne veut pas dire les hommes d'autoroute, non, ça veut dire les bandits de grand chemin. Ils étaient quatre, donc Willie Nelson, Kris Kristofferson, Johnny Cash et le quatrième, dont j'ai toujours un mal à me souvenir. Bref, les auditeurs
avertis,
voilà. Et c'est la dernière chanson. La dernière phrase de Murty.
De ce livre.
De ce livre, ouais. On the Road Again.
1, 2, 1, 2, 3, 4. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again.
Ça fait plaisir. Parlons un peu de la prison. Vous vouliez absolument parler de la prison. Donc on va parler de la prison. Mais non. Non, parce que c'est l'un des moments importants. Parce que le petit Murty, il découvre la prison. Il ne sait pas ce que c'est.
Alors, il découvre la prison.
Parce qu'il se fait... Alors, on peut le dire, ça. Il se fait choper.
Ben, c'était ce que je viens de dire.
Voilà. C'est pour ça. Il se fait choper.
Il se fait choper.
Et là, il ne sait pas ce qui lui arrive. Quoi. Lui, il pense qu'il va sortir tout de suite, en fait.
Il pense qu'il va sortir tout de suite parce que tout le monde le lui a dit. L'avocat lui a dit non, mais c'est bon, vous êtes un primo délinquant. C'est bon, quoi. Pas de casier judiciaire.
L'avocat, qui est une avocate, Sandra Weber, mais il ne comprend pas parce que lui, normalement, il aurait eu un avocat commis d'office et là, il a presque une ténor du barreau à son service. Il ne comprend pas.
Il ne comprend pas, et les flics comprennent.
Ils comprennent quoi, les flics alors ?
Ils comprennent que c'est une avocate spécialisée des narcos.
Payée par les narcos.
Payée par les narcos.
Parce qu'il ne faut pas que le gamin parle.
Donc, alors, quand Murty est arrêté, il y a une vague d'arrestations de tout le réseau, en fait, enfin presque tout le réseau, parce qu'ils ont loupé pas mal de gens. Mais bref, et donc ils comptent sur Murty en prison pour, en lui mettant la pression, qu'il raconte à qui il remettait l'argent, etc., pour essayer de remonter davantage la filière. Et là, la prison, Murty va découvrir ce que c'est cette folie de la prison, c'est-à-dire que le bruit ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de réfectoire comme la prison. Les gens connaissent toujours la prison, mais la prison Netflix. Mais non.
Oui, vous la racontez, parce que en fait, le flic lui dit, parce qu'il pense qu'il y a un réfectoire.
Il n'y a pas mais de réfectoire.
On mange... C'est dans les serres américaines. C'est...
Mais complètement.
Et on mange tout seul dans... ou avec son compagnon de prison.
Dans la cellule.
Dans la cellule.
Ouais. Le matin, on leur donne une baguette avec de la ricorée, etc.
Oui, vous dites pas de café, parce que le café, ça énerve.
Ouais.
Il faut que les gens soient calmes.
Alors pourquoi, ouais. Pourquoi je raconte ça ? C'est tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des détenus récemment libérés et des surveillants de prison qui m'ont dit « on te parle sous le couvert d'anonymat ». Un me disait ben, « on n'a pas de viande rouge, donc on a du poulet, etc. » Alors en cantine, on achète des sauces tomates, on fait du poulet basquez, etc.
En cantine, boulot. C'est-à-dire cantiner en prison.
Cantiner, ça veut dire c'est... mettre de l'argent sur un compte.
Voilà. Et pouvoir acheter à l'épicerie de la prison, quoi, en gros. Quoi.
En fait, ils ont une liste avec les produits qu'ils peuvent acheter, etc. Voilà. Et en fait, comment ils se font livrer tout ça ? Ben, parfois par des balles de tennis. C'est-à-dire qu'on ouvre une balle de tennis, on met dedans des clés USB, des machins comme ça, qu'on balance au-dessus de la. Au-dessus, ça s'appelle une projection, hein, au-dessus du mur d'enceinte. Et parfois ils mettent une entrecôte, un morceau de viande rouge, etc. Et quand la balle de tennis elle arrive, il y a les initiales de la personne qui va la récupérer. Et ça monte par un système de yo-yo. C'est-à-dire le yo-yo, c'est des draps qui pendent
par les fenêtres,
et qui vont comme un feu, comme un lasso, qui vont remonter vers.
Donc il y a de la viande dans des balles de tennis.
Ça arrive, oui, bien sûr. Bien
pour
sûr.
Avoir un peu de protéines, un peu plus.
Voilà.
Mais pourquoi il n'y a pas de viande rouge ? Parce que c'est trop cher ?
Non, je sais pas. Il n'y a pas vraiment de... Peut-être que dans des prisons, maintenant, il y en a... Enfin, là, les détenus avec lesquels je discutais, c'était... Non, c'est de la viande blanche. Voilà. Et bien sûr, la CAM. La CAM rentre plein pot par les prisons. Elle rentre aussi par des surveillants. Elle rentre... Alors, après les parloirs, systématiquement, les détenus étaient fouillés. Maintenant, avec une directive européenne, il y a des fouilles aléatoires. C'est plus systématique.
Donc, ça passe, quoi.
Voilà. Donc, ça passe. Et pour les stupes, moi, j'ai eu une expression qui m'a vraiment... j'ai trouvé ça formidable. Un gars me dit, mais tout le monde sait que ça circule de partout. On appelle ça le coupe-circuit. Le coupe-circuit, parce que ça calme tout le monde. Et quand il n'y a pas de bazar dans les prisons, c'est beaucoup mieux. Quoi.
Moi, je suis visiteur de prison, comme vous le savez, dans le cadre d'une association qui apporte la littérature en prison. Et c'est vrai que quand on parle en off à certains surveillants, que le shit passe, que le cannabis passe, c'est quand même comme ça, les gens dorment. Quoi. Ils n'ont pas de problème alors qu'ils sont 5 dans une cellule de 3. Quoi.
Mais bien sûr, de 9 mètres carrés,
oui.
Avec les toilettes au milieu.
Ah oui. Vous parlez dans ce livre d'une scène à Madrid qui se passe à Plaza de la Vidée. J'ai vécu 17 ans sur la Plaza de la Vidée. Donc ça m'a fait.
Je l'ignorais.
Mais oui, on peut se rire. Alors on va dire la vérité, on s'est connus à Madrid. Hein. Nous sommes copains, on se tutoie dans la vie, mais là à la radio on se voit, mais on s'est connus à Madrid quand vous étiez en poste, vous l'avez dit, dans la. La collaboration franco-espagnole.
Ouais, et puis vous étiez un fervent spécialiste du Real de Madrid.
Exactement. Du Real Madrid, pas de Madrid.
Ouais,
pas,
Real Madrid.
Pas vous, Jean-Marc.
Non, c'est
donc
vrai,
on s'est connus à ce moment-là.
Ouais.
Et puis on avait en commun ce goût pour les livres. Nous étions plus jeunes, plus beaux, mais bon, que voulez-vous.
On n'a pas changé.
On n'a pas changé. Bon, quand même. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que vous ne saviez pas, parce que quand on s'est rencontrés, je n'habitais plus à la Place de la Vidée, mais j'ai vécu pendant 17 ans à la Place de la Vidée. Donc ça m'a fait quelque chose de voir vous entendre parler de ça. Comment se passe la collaboration entre la France et l'Espagne, la collaboration policière ? Parce que vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de critiques par rapport à la régularisation par le gouvernement espagnol de 500 000 étrangers. Il y a des déclarations assez dures, notamment de Bruno Retailleau, etc. Mais en fait, ça se passe très bien entre la France et l'Espagne d'un point de vue, policier.
Ah, mais c'est formidable. C'est formidable parce que l'élément fondateur de cette amitié indéfectible entre les polices, entre la police nationale, la garde civile et ses homologues français vient de quand la France est engagée dans la lutte contre l'ETA.
Le terroriste basque.
Le terrorisme basque, bien sûr.
Ça a pris du temps.
Ça a pris du temps. Et quand le gouvernement français a appuyé sur le bouton en disant les terroristes, les Basques sont des terroristes, parce qu'en fait, les Basques venaient se réfugier en France.
Mais ils tuaient, ils mettaient des bombes en Espagne.
Mais ils ont eu 800 morts, hein, oui. Notamment des guerres civiles, etc. Mais,
j'ai couvert comme journaliste une douzaine d'attentats de l'ETA en Espagne.
Bien sûr. Donc, et on avait des... souvenez-vous, les terroristes de l'ETA qui venaient récupérer de la dynamite dans les stations de ski... pour faire sauter les avalanches.
Oui, donc, en France,
puis, oui, ils venaient se servir, etc. Oui. Et on a eu le commando Madrid qui avait exécuté les deux guerres civiles au Pays Basque français.
Le commando Madrid, je vivais à Madrid, je l'ai vécu, je l'ai suivi comme journaliste, j'ai écrit sur le sujet. Et puis des fois, on m'avait conseillé de regarder sous ma voiture quand même.
Bah oui,
parce que, ouais, je vais le dire maintenant. Voilà, vous voyez, on est là, je vais pas... Pendant de nombreuses années, j'étais le seul journaliste français qui lisait les terroristes de l'ETA. Le seul. Je suis désolé de voilà, parce qu'on est là, on est en confiance.
Bien sûr.
Parce qu'à l'époque, on disait les séparatistes basques, les militants basques. Moi, j'étais correspondant d'un journal à l'époque qui s'appelait France Soir, quand c'était encore un grand journal. Et ben, j'étais le seul correspondant qui disait les terroristes basques. Voilà.
Ouais.
Et on m'avait dit, bah, regarde quand même sous ta voiture.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il y avait ce qu'on avait, les bombes à la passe, c'est-à-dire des bombes ventouses sous les voitures. Et moi, j'avais plein d'amis journalistes qui étaient sous protection policière à cause de qui était menacé par le terrain.
Rappelez-vous l'attentat de... On dérive là, mais un peu, mais rappelez-vous de l'attentat de Carrero Blanco. La voiture, elle explose.
Ouais. Et c'était sous franquisme. Oui.
Oui, oui.
Et elle fait 50 mètres.
50 mètres, elle retombe à l'intérieur d'une cour d'immeuble. Exceptionnel. Donc, la coopération...
Excusez-nous pour cette petite digression,
non,
important parce que, vous l'expliquez, Jean-Marc Souvira, la France a eu beaucoup de mal à reconnaître que les Basques de l'ETA étaient des terroristes. Mais à partir du moment où cette collaboration a commencé à fonctionner, elle a fonctionné pour tout, dont pour la lutte contre le
les stupes, pour tout. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à Madrid, je suis présenté à tous les directeurs de la police espagnole. Donc, il y a un grand raout, tout le monde est là, et donc tout le monde est en uniforme, moi compris. Le chef de la police espagnole vient vers moi avec un poing serré. Il me regarde. Alors moi, j'ai la chance de parler espagnol du fait que ma famille, une partie de ma famille est d'origine espagnole. Poing serré en avant, il me dit « Est-ce que tu es Real ou Atlético ?» Donc là, je réfléchis. En 10 secondes, je me dis « Les plus jeunes sont Atlético et les plus anciens sont Real. » Je lui dis « Real ». Il ouvre la main, il y avait le pins du Real. Il me dit « Bienvenue ». Donc voilà comment la coopération franco-espagnole ou hispano-française a démarré. Et ça a toujours été formidable. Il y a beaucoup de discussions qui sont faites après dans les matchs du Real. Évidemment, ils étaient contents quand le PSG se faisait démonter, mais bon, la coopération policière, elle est basée aussi là-dessus, sur de l'amitié, sur de la confiance, sur de l'échange. Ça va tellement vite, les bandits vont tellement vite. Si nous, Français, enfin policiers hein, de manière générale, on reste cadenassés dans les règles, etc., on est mort. Bien sûr, on franchit pas les règles. Je veux dire par là que on transmet l'information à l'oral et puis après on la fait remonter à notre direction. C'est-à-dire que tous les attachés de sécurité intérieure présents aux quatre coins de la planète, on est à peu près 75, entre 75 et 80, sont des boucliers avancés sur la France. C'est ça qu'il faut que le lecteur, qui ne connaît pas cette structure de police, a besoin d'entendre.
C'est-à-dire que vous protégez la France en étant en poste à l'étranger.
Mais complètement. Nous, quand on faisait faire des arrestations en Espagne, les Espagnols étaient contents, montraient qu'ils étaient efficaces, et nous, on était contents parce qu'on n'avait pas les gars en prison.
Pour terminer rapidement, parce que le temps passe, on est tellement bien ensemble, mais quelle est la différence entre les polars que vous écriviez quand vous étiez encore en service et les polars que vous écrivez alors que vous n'êtes pas à la retraite, vous n'êtes plus en service ?
Je vous remercie de cette question un peu perfide.
Mais je suis perfide. L'interrogatoire aujourd'hui, c'est moi, monsieur le commissaire divisionnaire.
Général.
Général ?
Oui, commissaire général. Je suis monteur, voilà.
Ah, pardonnez-moi. Pour
mais c'est vrai que je suis passé commissaire général à Madrid. Et vraiment, c'était cool, ça.
Mais donc,
je réponds avec grand plaisir, je réponds à la question. Les trois premiers romans que j'ai écrits mettaient en scène un commissaire de police qui s'appelle Ludovic Mistral, qui était fortement inspiré de ma personne et que les lecteurs ont adoré. Ensuite, je suis resté 8 ans sans écrire parce que je suis parti en expatriation. Et je reviens à l'écriture avec un livre qui s'appelle « La porte du vent », qui raconte comment les communautés juives et chinoises se sont rencontrées avant qu'elles deviennent des mafias. Alors, pourquoi ça a changé ? Mon écriture a profondément changé parce que j'ai décidé de ne plus mettre forcément en avant un policier, mais un monsieur un lambda. Par exemple, c'est Murty.
Murty, c'est-à-dire que ce n'est pas le policier qui est le héros, c'est le petit...
Le lecteur voilà. Voit ce que c'est le vrai trafic de stupes dans les yeux de Murty.
De Murty, d'accord. C'est ça qui était...
C'est ça qui a profondément changé dans mon écriture.
Et c'est un passage très intéressant dans votre carrière, parce que vous avez écrit de nombreux romans. C'est le moment du questionnaire de Fred. Jean-Marc Souvira, des questions courtes, donc des réponses courtes. Où écrivez-vous ?
Chez moi, dans mon bureau.
Quand écrivez-vous ?
L'après-midi, le matin, je fais du sport.
Avez-vous des superstitions, des rites au moment de l'écriture ?
Je reviens, je relis toujours le dernier passage, ce que j'ai écrit la veille. Je peux pas redémarrer.
Écoutez-vous de la musique en écrivant ?
Non, mais j'écoute avant ou après, et essentiellement du jazz.
Quel livre vous a-t-il le plus marqué enfant ?
Enfant ? C'est une série, c'était Le Club des Cinq.
Oh, Enid Blyton.
Enid Blyton. Le Club des Cinq, c'est vraiment, je trouve ça formidable.
Et Dagobert, le chien.
Le chien Dagobert. Et après, je suis passé au Clan des Sept.
Oui, ça, j'ai moins connu. C'était la bibliothèque verte.
Tout verte, ouais.
Exactement. Quel est le livre le plus important de votre vie ?
Il y a deux livres que j'ai beaucoup offert et qui m'ont vraiment, vraiment touché. Le premier, c'est Corps et âme, Frank Conroy, un livre sur la musique exceptionnel. Et le second, c'est Luis Sepúlveda, le vieux qui lisait des romans d'amour.
Quel livre pourriez-vous recommander à des parents qui veulent donner le goût de la lecture à leur enfant ?
Corps et âme, Frank Conroy.
Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui n'arrive plus à lire un roman en entier ?
De prendre un livre court, très bien écrit et qui le fait voyager, ce sera donc Le Vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda, qui est un petit livre absolument merveilleux.
Merci Jean-Marc Souvira. Passons au deuxième chapitre de l'émission. Un petit chapitre, mais mon ami Jean-Michel Larquet m'a envoyé le livre de son grand, grand ami, Bernard Champion, qui l'a coécrit avec Pascal Pacali. Ça s'appelle Histoire de Champion, sans S, 70 ans de football stéphanois, avec une préface de Jean-Michel Larquet. Bon, Jean-Michel Larquet, que l'on connaît bien depuis un bon quart de siècle sur l'antenne d'RMC. J'avais envie de vous lire quelques lignes, les dernières lignes de cette préface. De ce très beau livre qui vient de paraître aux éditions des Joyeux Pendus. En parlant de son ami, Jean-Michel Larquet dit « Ce champion-là aurait dû faire une belle carrière de footballeur professionnel, mais aux limites d'un terrain, il a préféré consacrer sa vie aux autres. La AS Saint-Étienne et mes coéquipiers m'ont permis de remporter de nombreux trophées. Le football m'a offert mon meilleur ami. Je suis un chanceux. » Ce sont les mots de Jean-Michel Larquet, de notre grand ami Jean-Michel Larquet. La préface de Histoire de champion, 70 ans de football stéphanois, aux éditions des Joyeux Pendus. C'est un bouquin co-écrit par Bernard Champion et Pascal Pacali. C'est déjà la fin du 42e, ça commence à devenir sérieux, hein, de votre podcast des livres RMC. Merci infiniment. Merci Jean-Marc Souvira pour votre visite.
Merci
Je rappelle
beaucoup.
Le titre de votre vraiment super roman, super polar, Murty, qui vient de paraître aux éditions Fleuve Noir. Ce podcast est à écouter et réécouter à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr et sur l'appli RMC, bien sûr, sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à partager le lien sur les réseaux, à laisser des notes et des commentaires et surtout, abonnez-vous. Et l'on se quitte, comme toujours, avec un peu de musique d'Astor Piazzolla et allez, quelques vers de Victor Hugo. Vous qui ne savez pas combien l'enfance est belle, enfant, n'enviez point notre âge de douleur, où le rire tour à tour est esclave et rebelle, où le rire est souvent plus triste que vos pleurs.
RMC.